Voilà, bien, écoutez, nous allons commencer donc ce forum débat avec Serge de Ruette, que nous remercions vivement d'être venu spécialement de Belgique pour nous parler donc de l'abbé Mélier, oui, excuse-moi, qui est pratiquement un curé révolutionnaire, communiste, athée, qu'il nous fait connaître à travers donc ses textes. Et nous pensons que dans cette période où les idées les plus réactionnaires sont plutôt à l'offensive, il est bon de se rappeler un peu l'histoire des idées matérialistes et athées. Voilà, donc je lui laisse la parole. Et ensuite, nous pourrons passer au débat, à vos questions, vos interventions, avant de pouvoir terminer en achetant son bouquin, en vous le faisant dédicacer de l'autre côté de la tente, là, et de éventuellement poursuivre la discussion si vraiment nous n'avions pas terminé à 20h. Voilà.
On va commencer tout de suite.
On commence.
Ça, c'est le mien, alors. Hein.
Et ça fonctionne.
Ouais, ça fonctionne.
Alors, je dois dire que nous avons eu pas mal de problèmes de sono en début d'après-midi, avec des pannes aléatoires de la table. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Mais je sais comment le relancer à chaque fois. Mais on est interrompu. Il faut attendre quelquefois 5-6 secondes avant de pouvoir redémarrer. Voilà, donc c'est absolument involontaire.
Voilà, ah ben, alors on va commencer avec quelques minutes d'avance, hein. Ça c'est une grande première, commencer avec quelques minutes d'avance, j'imagine que ça va se remplir progressivement, il y a peut-être des pannes de micro dit-on, hein. Bon, hein. Comme je l'ai entendu lors d'une autre conférence, vaut mieux une panne de micro qu'une pine de macro. C'est la première fois que j'entendais ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu vous-même. Bah, donc
c'est une blague belge, peut-être, non ?
Non, c'est...
Que nous ne pouvons pas comprendre.
Non, c'est un éminent professeur physicien français, tout à l'heure, qui à la Cité des Sciences l'a dite. C'est une des choses que j'ai retenues de sa conférence, notamment. Voilà. Alors, très content de pouvoir parler de Mélier, même s'il y a donc ces pannes de micro. C'est pas grave, j'aime pas le micro. Donc, on fera alors sans pendant ce moment. Et donc, on me laisse une petite heure pour vous présenter ce curé. Hein, en France, effectivement, un curé, on les appelle les abbés, comme je suis belge. C'est pas un terme qu'on utilise en Belgique. C'est le curé Jean Mélier, donc un curé, mais vous le savez, sinon il serait pas ici. C'est un bon curé. C'est un curé qui a vécu au siècle, au grand siècle, le 17e sous Louis XIV. Il est né en 1664. Il est mort sous Louis XV, au tout début du règne de Louis XV, le 18e siècle, le siècle des Lumières. Et il laisse à sa mort, en 1729, il laisse un énorme manuscrit qu'il recopie plusieurs fois lui-même, circuler dans ces circuits de diffusion de la pensée clandestine du XVIIe, du XVIIIe siècle français. On repère aujourd'hui plusieurs dizaines de ces textes qui n'ont jamais été publiés à l'époque et qui ont circulé, retranscrit, recopié de façon clandestine. Le mémoire de Mélier, de Jean Mélier, est un de ceux-là, mais il a la particularité, et plein de particularités, formellement, la particularité d'être un des plus gros. Quand on l'a édité, quand Roland Desnay l'a édité pour la première fois en 1970, donc à la fin du XXe siècle, il n'y a pas encore 50 ans, a publié son texte, ça fait un millier de pages imprimées. Donc on s'imagine l'ampleur que représente ce mémoire de ce curé. Né en 1664, mort en 1729. En 1664, sa date de naissance, on la connaît plus ou moins. Il se fait baptiser le 15 juin 64, donc il y a presque 351 ans. L'année passée, on a fêté en grande pompe le 350e anniversaire de sa naissance, en tout cas de son baptême, mais il y a tout lieu de croire qu'il est né le jour, comme ça se faisait à l'époque, le jour de son baptême, sauf s'il est né dans la nuit, sauf, comme ça arrivait régulièrement à cette époque, si le curé avait, par exemple, un peu trop bu ce jour-là, ben on est postposé d'un jour ou deux, mais on retient la date date du 15 juin 64. C'est très anecdotique, j'en rajoute une d'anecdote. Et en fait, quand je rajoute des anecdotes, c'est parce qu'elles sont toujours significatives de quelque chose de plus important et plus profond. Il est mort quand ? En 1729. À quelle date ? Au début de l'été 1729. Et là, on ne connaît pas la date exacte de sa mort. Elle n'apparaît dans aucun registre paroissiaux qui la note. Donc, d'une certaine manière, Jean Mélier, ce bon curé Mélier, il n'est toujours pas mort. Hein, officiellement, en tout cas, au début de l'été. On le sait parce que le 27 juin de cette année 1729, il s'en va signer son dernier acte paroissial et que le 9 juillet, on procède à l'inventaire de sa succession. Ça veut dire qu'il est mort entre ces deux dates. Mais entre-temps, il a laissé dans sa cure, sur sa table de travail vraisemblablement, un énorme manuscrit. Il en a posté plusieurs au greffe de tribunaux à n'ouvrir qu'après sa mort. Et il a plus que vraisemblablement fait diffuser par un passeur de manuscrits ce texte, et on découvre donc ce brûlot, cet énorme texte qu'on peut imaginer plein de bonnes pensées propres à édifier ses paroissiens et qui en fait n'est rien de tout ça puisque c'est le premier texte théorique qui fonde l'athéisme comme une théorie. Des athées, il y en avait à l'époque, c'est leur première théorie complète et achevée, l'athéisme. Mais plus que cela, la première théorie complète et achevée de matérialisme philosophique qui est au moins, avec évidemment quelques imperfections, quelques hésitations, mais qui est au moins aussi systématique que ce que un demi-siècle plus tard, Holbach, le baron d'Holbach, publiera dans Le Système de la Nature. Et pas seulement que ça, pas seulement un curé théoricien de l'athéisme, théoricien du matérialisme philosophique, mais un curé communiste. Un curé communiste, ça tombe bien, hein, d'avoir un curé communiste ici. Il y avait beaucoup de communistes à cette époque. C'est un genre d'ailleurs qui était relativement prisé parmi l'élite intellectuelle que de développer sa propre conception d'une société égalitaire où il n'y aurait pas de propriété privée. La première date du tout début du XVIe siècle, l'année prochaine on fêtera son 500e anniversaire, c'est un texte fameux, bien connu, l'utopie de Thomas More. Et puis il y a eu toute une kyrielle, toute une tripotée d'autres penseurs qui, à la suite de Thomas More, développeront le genre du communisme, c'est-à-dire tenteront de décrire une société où l'on peut vivre en l'absence de la propriété privée. Mélier donc s'inscrit dans cette perspective communiste. Mais là, il ne détonne en rien. Il ne détonne en rien, sauf que, et c'est là véritablement sa spécificité, et qui fait son actualité aujourd'hui, premier théoricien de l'athéisme, premier théoricien du matérialisme philosophique, un théoricien du communisme, mais le seul communiste, le seul et le premier communiste à avoir une pensée, une conception révolutionnaire avec non seulement un projet, mais un programme pour réaliser la révolution. D'une certaine manière, athéisme, matérialisme, communisme et pensée révolutionnaire, Mélier précède de plus d'un siècle Engels et Marx. Et entre Mélier et Engels et Marx, il y a eu la Révolution française, la Révolution industrielle, le triomphe de la bourgeoisie sur la féodalité, la formation de la classe ouvrière. Cela mesure l'avance que Mélier avait sur son temps. Alors ces points, je les exposerai dans le petit temps qui m'est imparti. Évidemment, je tenterai de les présenter synthétiquement, ces quatre points, athéisme, matérialisme, communisme et pensée révolutionnaire qui fait la spécificité de ce mémoire de ce curé Mélier. Je dois dire un mot avant cela sur ce qu'il a été et sur sa vie. Hein ? Où a-t-il vécu ? Ben, j'ai dit entre 1664 et 1729, il vit 65 ans. On connaît plus ou moins la date de naissance, pas vraiment la date de décès, le début de l'été 1729. Peut-être que je terminerai là-dessus si j'en ai l'occasion pour évoquer quelques hypothèses sur sa mort qui n'est pas sans lien sur sa stratégie révolutionnaire. Mais je vais laisser ça pour l'instant. Où habite-t-il ? C'est un curé des Ardennes. Les Ardennes françaises. Il naît dans un petit village des Ardennes, à Mazerny, pour ceux qui connaîtraient. C'est là où les Ardennes se terminent et glissent doucement vers la Champagne. Il est remarqué par le curé de son village, qui propose alors, c'est un énorme honneur, qui propose à ses parents d'en faire son poulain, de l'écoler, de lui apprendre à lire et à écrire le français et le latin, en vue d'en faire un successeur, d'en faire un curé. Et il ira donc au séminaire, et pas n'importe quel séminaire le plus proche de la Champagne-Ardenne, celui de Reims, dit pas n'importe quel séminaire, parce que c'est celui de l'archevêché. Et quel archevêché? L'archevêché de Reims, si j'imagine vous le savez, c'est là où l'on couronne les rois de France. Il va donc faire ses études pour devenir curé à l'âge de 18-19 ans. Il en sortira et là on lui attribuera, il aura 25 ans, en 1689, la cure d'un autre petit village des Ardennes, le village où il va rester curé jusque sa mort, c'est-à-dire pendant 40 ans, où il officiera là pendant 40 ans, le petit village d'Étrépigny, deuxième paroisse qu'on lui attribue à 2 kilomètres à partir d'un sentier qui coupe à travers bois et à travers champs, le village de Balève, un sentier de terre, encore une anecdote. Hein, pourquoi je raconte des anecdotes, on se le demande. Un sentier de terre qui relie ce village et qui aujourd'hui encore n'est pas macadamisé. Et que, il y a quelques années, on a été officiellement inauguré, baptisé, le chemin du curé Mélier. Et chaque année, donc, à l'occasion de son anniversaire, on reparcourt ce chemin sur les traces du curé Mélier. Deux petites paroisses. Il était là un curé comme il y en a tant d'autres. Il a fait son travail très honnêtement et scrupuleusement. Les actes paroissiaux que l'on a tous conservé. Il se trouve aux archives de Charleville-Mézières. Ces actes paroissiaux montrent qu'il les tenait scrupuleusement. Et à côté de ça, il va écrire ce texte qui donne toutes les raisons de ne pas croire et dans lequel il va prêcher l'exact inverse de ce qu'il a prêché toute sa vie. Curé pendant 40 ans, sans faire de flamme, sans faire... Ça se dit en français, parce que je parle quelquefois en belge, sans faire de l'esbrouf, hein, sans avoir le gros coup, hein, sans se montrer. Ça veut dire que on ne saura rien d'autre de lui que celle qu'il a été, que savoir qu'il a été un bon curé. Si vous jetez un coup d'œil, j'imagine certains d'entre vous l'ont fait, sur Internet, il commence enfin à renaître de ses cendres, ce curé, à être connu. On trouve une iconographie dans laquelle on le représente souvent, et j'ai fait moi-même l'exercice, il y a une quinzaine de représentations, dessins, gravures qui prétendent là donner le visage du curé Mélier. Ces représentations sont toutes fantaisistes. On ne sait pas à quoi Mélier a ressemblé. Donc c'est un auteur sur lequel on sait peu de choses de sa vie. D'une certaine manière, on ne sait de sa vie que le peu qu'il va y raconter dans ce volumineux mémoire. Et il parle peu de lui-même. Mais il a une particularité qui n'est pas sans intérêt non plus, ce mémoire. J'ai dit que c'était le premier théoricien de l'athéisme et un des plus complet. Son originalité, ce qui fait qu'il est un véritable théoricien complet de l'athéisme, c'est que c'est le seul athée de son époque, 17e, 18e siècle, le premier athée en conséquence, qui n'envisage pas l'athéisme comme un amusement pour les seuls puissants, pour l'élite aristocratique ou bourgeoise montante, mais qui voit l'athéisme comme un moyen de libération des masses paysannes. Il dédicace son mémoire, son volumineux mémoire, à ses paroissiens et à tous leurs semblables, c'est-à-dire à la paysannerie asservie. C'est une de ses particularités que d'avoir un mémoire dans lequel il s'adresse à ses paroissiens. Et donc, ben, il va s'excuser d'abord au début de son mémoire auprès de ses paroissiens d'avoir pendant 40 ans de les avoir d'une certaine manière abrutis à travers son devoir ecclésiastique. Il s'y excuse modestement en disant ben, « Vous avez bien vu, je n'ai jamais été porté sur l'esprit de l'Uchronie, sur la bigoterie. Hein » Et il dit lui-même « J'ai été porté vers l'état de curé » pour complaire à mes parents, mais il ne veut pas non plus laisser à ses parents le seul poids de cette décision. Il ajoute aussi, j'y voyais moi-même un état bien plus confortable que celui de rester dans la paysannerie et de remuer la terre. Et c'est vrai qu'être curé à cette époque, ça peut souvent poser des problèmes. J'ai souvent ça dans les questions lors du débat. Comment sait-il qu'il restait curé toute sa vie et qu'il soit athée? C'est un hypocrite d'une certaine manière quand on pense cela. On regarde avec les lunettes rétrospectives dans le rétroviseur des conceptions de notre temps. Avant la Révolution française et à l'époque de Méliès, il y avait encore des curés renégats, des curés apostats que l'on brûlait sur le bûcher. Un est attesté en 1709 et quelques 35 ans après la mort de Méliès, le chevalier de Labarre sera brûlé pour bien moins que cela. Il tenait donc à la vie. Il s'exprime et il explique qu'il va diffuser son mémoire de façon posthume, le laisser circuler après sa mort, donc il doit mourir pour que son mémoire circule. Il explique en disant qu'il aimait particulièrement la vie, et c'est ce dont on peut aussi lui savoir gré, non seulement pour lui-même, mais parce que ça peut donner alors à son mémoire, l'ayant exprimé sans devoir faire la moindre concession au débat de l'époque, avec toute la radicalité contestatrice que l'on peut se permettre quand c'est sa dernière parole et quand on ne doit donc plus rien et aucune concession et aucun arrondissement des angles. Ceux qui ont l'habitude d'écrire dans des journaux ou bien de parler devant des étudiants savent que souvent on est amené à arrondir les angles pour complaire aux idées dominantes. Ça ne sera pas le cas de Méliès. Donc il s'explique dans son mémoire, j'ai été porté vers l'état de prêtrise, mais vraisemblablement, il ne croyait pas énormément à ce moment. Il est loin d'être le seul curé qui ne croit pas à l'époque. Dans l'archevêché de Reims, au début du XVIIIe siècle, on a des enquêtes de l'archevêque Méliès, lui-même l'objet de deux enquêtes de l'archevêque qui va inspecter ses curés et qui prend sur base d'un questionnaire préparé, qui donne des réponses. Il y a très peu de bons curés, il y en a beaucoup qui sont des alcooliques. Il y en a plein qui profitent de leur situation d'homme important dans le village pour tenir un café, tenir un tripot, même se livrer parfois au proxénétisme, comme on le dit. Et il y a aussi quelques curés qui sont mentionnés par l'archevêque comme étant de fortes têtes et comme étant des incultes qui ne connaissent rien à ce qu'ils disent. Ça sera la mention que l'archevêque réservera à Méliès. Il prétend parler de choses qu'il n'entend pas. Hein. Et donc là, on voit que derrière ces fortes têtes ou derrière ces ignorants, il y avait peut-être là des curés dont l'archevêque avait débusqué, qu'il ne pensait pas comme il devait penser pour être un bon curé. Donc, pas le seul curé à ne pas croire. À une demi-lieue de là, à 3 kilomètres à travers les bois, sur les rives de la Meuse, de l'autre côté de la Meuse, à Nouvion-sur-Meuse, il y a là un curé, le curé Jadin, qui est lui aussi un mécréant. À la frontière franco-belge, dans le petit village de Gesponsard, on a là le curé Stenva, qui est un mécréant de la pire ou de la meilleure, c'est selon, de la meilleure des espèces. Méliès n'est pas un cas à part de curés qui ne croient pas. Petite parenthèse, on ne croit pas nécessairement, comme on le pense si souvent, dans l'ancien régime, il y a des gens qui ne croient pas une des mentions du mémoire de Mélier va l'attester. Il prend ses paroissiens en partie en disant « Vous voyez très bien que ce genre de choses sont difficilement croyables. » Ça veut dire qu'il y avait des gens qui se posaient des questions. Il y avait des gens qui n'allaient pas nécessairement à la messe. J'ai retrouvé une mention d'ailleurs, au temps de Mélier, d'une note de l'archevêque sur le cabaretier du village des Trépignies, qui le note très mal parce qu'il retiendrait, écrit-il, ses clients à boire et à manger pendant les heures de l'office. Ça veut dire que tout le monde ne croyait pas. Mais il y a une catégorie de non-croyants qui est peut-être plus importante que les autres, ça doit être celle des curés. Ils n'avaient pas, ces curés, que le catéchisme, ce Read the Digest, cette sélection de textes propres à édifier que l'on racontait au peuple inculte et pauvre, ils avaient la possibilité de lire la Bible et à la rencontre, à la confrontation de la Bible, on trouve à Schlemelier une analyse implacable de toutes les absurdités, de toutes les abracadabrances que l'on trouve dans la Bible, à la lecture de cette Bible, beaucoup se découvraient non-croyants. Mélier n'est donc pas un phénomène en tant que tel. Phénomène il est pour ce qu'il va laisser comme écrit. J'y reviens, je poursuis sur ce qu'on peut savoir, le peu qu'on sait de sa vie. Très peu de choses. Très peu de choses. Il avait, et à deux enquêtes épiscopal, mais archi-épiscopal, près, à 25 ans, il a eu deux servantes, deux bonnes du curé, qui n'avaient pas l'âge canonique et qui étaient même très jeunes. L'âge canonique, d'ailleurs, dans l'archevêché de Reims, ce n'est pas 40 ans, c'est 50. Donc on voulait vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de mouflet qui viendrait apparaître et qu'il faudrait cacher. Mélier se fait réprimander par le premier archevêque, celui qui l'a formé et qui d'une certaine manière a beaucoup de confiance en lui de façon très aimable. Il peut vraisemblablement conserver sa première bonne. La deuxième, avec un deuxième archevêque qui, lui, veut récupérer l'ensemble du monde curial, l'ensemble des curés dans le giron de l'Église d'où ils avaient la tendance de s'éloigner, sera implacable. Mélier doit quitter sa jeune bonne du curé. C'est un des rares éléments privés que l'on sait de sa vie. Un autre est plus important. Cet autre élément, il n'apparaît pas dans le mémoire. Il est attesté par des récits qui ont été faits au XVIIIe siècle sur ce curé Mélier, dont on dit plein de choses que l'on sait être fausses ou qui ne sont pas nécessairement justes. Mais celle-là, elle est réellement attestée. Un beau jour de l'été, un dimanche, de l'été 1716. Mélier a 52 ans. Je dis c'est attesté parce que non seulement ce récit a circulé dans le 18e, mais on en retrouve la trace dans les procès-verbaux de l'archevêque qui est descendu sur le lieu pour cette affaire même, et c'est qu'il en a consigné les choses. C'est accessible, c'est consultable aux archives de Reims, donc c'est quelque chose qui est vérifié. Ce jour, ce dimanche de l'été 1716, Mélier se retrouve en train, comme tous les dimanches, de faire sa messe dans cette petite église des Trépignies. Petite parenthèse encore, l'église des Trépignies est toujours debout et donc on peut toujours aujourd'hui la visiter. Son premier biographe, en 1965 seulement, Maurice Domanger, qui écrit tant de textes sur le mouvement ouvrier et sur la Révolution, a consacré un premier très bel ouvrage à Mélier, souvent celui qui était le rare ouvrage, celui par lequel j'ai pu prendre connaissance de l'existence d'ailleurs de Mélier. Domanger écrit « On ne peut pas rentrer dans cette église sans émotion », et il a raison. C'est une église assez longue, mais très étroite. Et on imagine que la voix de Mélier a résonné pour ses prônes, pour ses sermons, dans cette petite église. Et ce dimanche de l'été 1716, Mélier pour le prône, pour le sermon. Il ne va pas monter en chaire, il n'y a pas de chaire de vérité dans cette petite église. Mais il s'avance jusqu'à la barrière qui le sépare de ses paroissiens, avec au premier rang le banc du Seigneur. Et puis quelques autres bancs qu'on appelle bancs de bourgeois, qui étaient accessibles à ceux qui pouvaient payer pour s'asseoir. Mélier avait la réputation attestée par l'archevêque, là aussi, d'accepter que l'on s'y asseye au même titre que le seigneur local, le seigneur de Touilly, le seigneur du village des Trépigny, de laisser s'asseoir sans faire payer ses paroissiens, ce qui suscitait évidemment l'ire du seigneur et de l'archevêque. Et avec ce seigneur, un seigneur apparemment intraitable, Mélier avait eu maille à partir et a pris toujours le parti de ses paysans. On va le voir. Ce dimanche de l'été 1716, il va s'avancer vers la barrière qui le sépare de ses paroissiens pour commencer son prône. Et il va le commencer d'étonnante manière. « Je devrais, dit-il, comme il est d'usage tous les dimanches, recommander à Dieu le Seigneur de ces lieux, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que l'on ne peut à la fois se revendiquer de la faveur divine et mépriser, comme il le fait, ses paysans et les pauvres. C'est un scandale. On imagine le Seigneur qui court jusqu'à Reims ou qui envoie un de ses émissaires à Reims dénoncer cela à l'archevêque. L'archevêque va sommer Mélier de s'amender le dimanche suivant et Mélier le dimanche suivant. Tout ça est annoté dans le procès-verbal que l'on conserve de l'archevêque. Mélier s'avance une nouvelle fois devant ses paroissiens et il va commencer son amendement, mais aussi là d'une étrange manière. Il commence en évoquant l'idée que les archevêques sont de grands seigneurs. Ils n'écoutent que la noblesse. Il n'écoute pas les curés de village. Et puisqu'il en est ainsi, eh bien, nous recommanderons donc à Dieu le Seigneur de ces lieux, mais il ajoute, pour qu'il lui fasse la grâce de ne plus exploiter ses paysans et de ne plus opprimer les pauvres. Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'archevêque va se déplacer dans la région. Il convoque Mélier. Mélier sera puni. Une punition qui peut paraître relativement faible. Un mois de retraite au séminaire de Reims. Ça s'explique par le fait que les disputes entre ces deux grands hommes du village, qu'étaient le seigneur et le curé, sont fréquentes et que l'archevêque ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, mais en tensant ainsi Mélier, il lui donne un avertissement. Il ne pourra plus s'opposer effrontément comme il le fait au seigneur. Mélier, qui concevait vraisemblablement son rôle de curé comme un rôle d'une certaine manière d'assistant social, un rôle qui visait à éviter à ses paroissiens qu'il aime d'éviter un sort trop injuste, se voit les ailes coupées. Et voilà, on a perdu le micro, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Il voit ses ailes coupées et donc il ne peut plus mener cette bataille, ça marche de nouveau, malheureusement, il ne peut plus mener cette bataille villageoise contre le Seigneur. Il est pieds et poings liés avec l'archevêché. Il est tenu d'être un bon curé. Et c'est là, plus que vraisemblablement, que va intervenir sa décision. Lui qui vient de perdre une bataille, et qu'il a perdu définitivement cette bataille, la bataille du village, il va se résoudre à en gagner d'autres, et plus que gagner d'autres batailles, à gagner l'ensemble de la guerre contre la féodalité, détruire la féodalité tout entière. Mais pour détruire la féodalité, comment s'y prendre? Il faut, pour détruire les structures féodales et monarchiques, il faut s'en prendre à la structure qui soutient, qui bénit cette structure féodale. Il faut s'en prendre à l'Église. Détruire la féodalité, mais détruire d'abord l'Église. Mais comment détruire l'Église? Que fait l'Église sinon à développer son discours de religion? Détruire la religion. Et quelle est le fond du fond du discours religieux, son fond de commerce, si on peut dire, du discours religieux, c'est Dieu. Il faut donc détruire Dieu. Et Méliès va se mettre en peine d'écrire un mémoire qui est destiné à être un jalon dans l'élimination, la suppression, la destruction de la féodalité, qui va passer par la destruction de l'Église, la destruction de son discours religieux, et donc par la démonstration que Dieu n'est pas, et démontrant que Dieu n'est pas, en passant par cette conception matérialiste qui était celle qui a existé et pendant de longs siècles dans l'Antiquité grecque et latine, pendant 5 siècles environ, qui va de Leucippe jusqu'à Lucrèce, en passant par Démocrite et par Épicure, il ressuscite cette conception matérialiste avant les penseurs les plus matérialistes des Lumières, avant Holbach, avant Diderot, avant la maîtrise, et en développant une conception matérialiste des choses. Si Dieu n'a pas créé le monde a en lui-même son propre mouvement, il a été éternel, il a existé de tout temps, il ne peut avoir été créé. Méliès va tenter de démontrer cela. Il se résout à écrire son mémoire, et il se résout à écrire son mémoire dans les dernières, toujours boire la bouteille, dans les dernières années de sa vie. On le sait, pour ça que je le situe après 1716, mais il y a des choses qui l'attestent. Le papier sur lequel il va copier et recopier 3 fois son mémoire. Et longtemps, on a cru qu'il n'avait recopié que 3 fois. Aujourd'hui, l'on sait, un de mes confrères espagnols, spécialiste des manuscrits clandestins au XVIIIe siècle, Miguel Benitez, a montré qu'il avait écrit au moins un 4e mémoire qui a été recopié par d'autres. Il va recopier 4 ou 5 fois ce mémoire. On en a retrouvé et on conserve aujourd'hui 3 de ses mémoires qui sont de sa propre main. Les analyses graphologiques historiques qui ont été faites, le confrontant à ses actes paroissiaux signés attestent que c'est de la main de Méliès. On les conserve à la Bibliothèque nationale rue de Richelieu à Paris. J'ai été évidemment les consulter, et de la même manière qu'on ne peut pas rentrer dans son église sans émotion, quelle émotion à près de 3 siècles de distance de toucher le papier même que Méliès lui-même a touché et sur lequel il a écrit ses manuscrits. Donc c'est 3 manuscrits qu'il va écrire. Le papier sur lequel il écrit a comme filigrane celui d'une papeterie qu'il a produit, qui n'existait pas avant 1719. Donc on sait que les mises au propre de son mémoire ne sont pas d'avant 1719, il meurt en 1729. Et il y a encore une mention, la seule mention historique ou d'actualité qu'il va citer dans son mémoire. Il parle à un moment du ci-devant régent de France, le duc d'Orléans. Or, le duc d'Orléans meurt le 7 décembre 1723. En conséquence, s'il est ci-devant, mais il n'est plus le régent de France. Et le mémoire a été mis au propre de façon définitive à partir de la fin de l'année 1723, en tout cas à partir de 1724, en juin 1729, il y en aura quelques exemplaires copiés et recopiés au propre par Méliès lui-même. C'est dans les dernières années de sa vie, donc, qu'il va écrire ce mémoire qu'il destine à ses paroissiens, dans lequel son objectif, qui n'apparaît pas à la première lecture de son mémoire, qui pourtant est, je tiens à le dire pour tordre le cou à un de ces canards que certains d'entre vous peuvent voir par-ci par-là voler, parce qu'il y a eu Michel Onfray, hein, que l'on connaît dans sa notoriété médiatique, qui a consacré dans sa contre-histoire de la philosophie un chapitre au curé Méliès. Il vaut mieux avoir ça que de ne rien avoir pour connaître le curé Méliès, mais il y a toujours ce charme spécifique que l'on retrouve chez Onfray de projeter sa propre personnalité sur les auteurs dont il parle, il fait de Méliès un anarchiste, ce qu'il n'est pas. Méliès est un communiste, je vais tenter de le montrer dans le temps qui me restera. Il fait de Méliès un libertin, ce qu'il n'est pas. Le libertinage, cette conception athée du XVIIe et du XVIIIe siècle, a comme particularité de réunir toute une série d'auteurs et de penseurs qui ont en commun le mépris profond pour le petit peuple, l'athéisme pour les puissants, mais pour le petit peuple, les curés, ça permettra de maintenir l'église au milieu du village et le calme dans la société. Méliès n'est certainement pas un libertin, comme le dit Onfray. Et Onfray dit aussi, quand on lit sa mémoire, mais là c'est Onfray dans ses effets de style, quand on le lit la première fois et même la deuxième fois, je crois qu'il aurait mieux fait de le lire au moins une fois plutôt que de reprendre le livre de Jean Bredel qui en est une petite synthèse. On n'y trouve aucune structure, c'est un livre très structuré, mais ça donne comme impression, ce livre très structuré, qu'on a trois parties, dont les deux plus importantes sont la première et la troisième partie. La première partie, c'est une partie qui couvre à peu près 40% du mémoire, c'est sa critique implacable de toutes les aberrations des textes religieux, de la doctrine chrétienne et de la morale chrétienne. Quelques 40% de son mémoire. Quelques 40% pour la troisième partie. Et là, on retrouve, et là, effectivement, Méliès prend une place dans l'histoire des idées philosophiques. On retrouve sa démonstration sur 400 pages d'un matérialisme implacable dans lequel il va tenter de montrer que le monde, que le temps n'ont jamais été créés et ont d'eux-mêmes leur propre mouvement, dans lequel il va montrer que l'âme, ce qu'on appelait l'âme à l'époque, aujourd'hui l'âme est réservée au domaine religieux, mais à l'époque c'était avant Freud, à l'époque l'âme voulait dire la conscience et tout ce qui va avec le subconscient et l'inconscient, c'était les sensations, les sentiments, la pensée, la parole, l'âme que l'on considérait comme étant forcément immatérielle, et Descartes un siècle avant Méliès confortera cette idée en voulant développer un matérialisme pour les choses matérielles, mais en démontrant par là même l'existence de Dieu et en conservant une place à Dieu et donc à l'âme humaine. Méliès partira en guerre contre cette idée cartésienne. L'âme est matérielle, l'âme, les sentiments, la pensée, les sensations sont des modifications de la matière, et comme il sait que là il ne se fera pas comprendre, il précise, sont des modifications de l'homme et de l'animal. Il adjoint l'animal à l'homme, encore une rupture avec Descartes, ça c'est pour tordre le cou à ceux qui considèrent que Méliès est un cartésien, et en concédant que c'est un cartésien d'extrême gauche, Méliès n'est pas cartésien, Méliès rompt avec le cartésianisme. Là où Descartes considérait que les animaux ne pouvaient pas avoir d'âme, pourquoi il ne voulait pas considérer que les animaux aient une âme? Parce que la préoccupation de Descartes, c'était de montrer que l'homme était la création particulière de Dieu, le seul à avoir cette âme qui le liait à Dieu, alors que la préoccupation de Méliès, en élevant l'animalité, là où Descartes l'a ravalé, était d'élever cette animalité pour montrer que non pas l'homme était une création particulière de Dieu, mais que Dieu était cette création, cette invention particulière de l'homme. Rupture avec Descartes là-dessus dans la construction de son matérialisme. Deuxième grande partie, plus importante encore que sa partie anti-religieuse. Mais la deuxième, celle qui est coincée entre la première et la troisième et qui ne fait que 10% de son œuvre, celle qui apparaît donc quantitativement, mais les choses quantitatives ne sont pas nécessairement les vérités qualitatives. C'est cette partie quantitativement la moins importante, 10% de son œuvre, sa critique sociale. C'est là qui est pour moi la véritable motivation qui a amené Méliès à écrire. La preuve, je la trouve dans son introduction aux mémoires et dans sa conclusion. Je terminerai là-dessus, parce que dans son introduction et surtout dans sa conclusion, on trouve la raison pour laquelle Méliès a écrit ce mémoire. Il voulait démontrer, on retient ça de lui, que Dieu n'existait pas, mais il voulait d'abord et avant tout montrer qu'il fallait se libérer de cette situation injuste, de cette situation inégalitaire qui était celle de la société de son temps. Alors, il me reste peu de temps, puisque je dois laisser une petite partie aux questions. Il me reste 10 minutes, hein, avant de laisser du temps en question. Dans 10 minutes, je vais essayer de résumer cette conception du mémoire de Méliès. Je vais être extrêmement court. Malheureusement, c'est la partie la plus truculente du mémoire de Méliès. Il s'amuse littéralement à débusquer toutes les incohérences, les contradictions qu'on trouve dans les textes bibliques et évangéliques. Petite parenthèse, on doit la première lecture synoptique mise en parallèle des trois évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc à l'allemand Griesbach au XVIIIe siècle. Le premier lecteur synoptique des évangiles, c'est Méliès, qui les met côte à côte pour y repérer l'ensemble des incohérences. Et fait la même chose pour tout ce qui est des prophéties, pour tout ce qui est des miracles, pour tout ce qui est des révélations que l'on retrouve tant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament. Je ne peux malheureusement pas m'appesantir sur la façon dont il démontre et dénonce ces incohérences, parce qu'on y trouve effectivement les parties les plus truculentes. Je ne peux renvoyer qu'à cet énorme mémoire, ou vous ceux qui ont cette curiosité, parce qu'il est très difficile sinon en bibliothèque de trouver ce mémoire, mais j'ai essayé d'en reprendre des éléments dans mon ouvrage. Laisse la première partie de côté. La troisième partie, cette deuxième partie la plus importante, celle qui conclut son mémoire, 40% environ son mémoire. C'est l'équivalent donc de 400 pages imprimées, sa démonstration matérialiste. Je vais essayer quand même d'en dire un mot. Méliès n'a pas vocation d'être philosophe. Il est très modeste d'ailleurs. Il le dit, tout petit esprit, tout petit génie que je puisse avoir, je vais tenter de montrer que Dieu n'existe pas. Il est d'ailleurs, je donne toujours en exemple à mes étudiants, parce que les étudiants, surtout depuis l'ère d'Internet, cette tendance à faire du plagiat, et donc je donne toujours Méliès en exemple, il ne fait jamais de plagiat. Dès qu'il trouve un auteur qui a dit ce qu'il voulait dire, il n'hésite pas à le reprendre et à se couvrir de lui en mettant une note en bas de page. Ça vient de tel auteur, toujours citer ses sources. Méliès cite toutes ses sources dans son mémoire. Et donc, il va tenter de construire, tout petit génie qu'il est, une somme matérialiste. Il n'a pas vocation d'être un philosophe, il ne le veut pas. Il va le faire sur une base exclusivement spéculative et avec très peu, on n'entend plus là, hein, et avec très peu d'ouvrages. Il le fait notamment à partir de textes cartésiens. Très étonnamment, Méliès n'a pas eu accès au texte de Descartes, ni le discours de la méthode, ni les méditations métaphysiques. Il n'y a vraisemblablement pas eu accès, puisqu'il est tellement scrupuleux et qu'il cite tout ce qu'il cite et qu'il ne cite jamais Descartes. Mais il cite les cartésiens, et pas n'importe quelle race de cartésiens, il cite les cartésiens chrétiens, et parmi eux, les deux ouvrages de Fénelon et de Malebranche qu'il va éplucher et contre lesquels il va construire son matérialisme. Donc, quand vous entendrez, si vous entendez que Méliès est un cartésien, et un cartésien éventuellement radical ou d'extrême gauche, ça ne veut rien dire, ce ne sont que des phrases, il n'y a pas de cartésianisme d'extrême gauche. Le cartésianisme, c'est d'une part la main gauche tendue vers le matérialisme et la rationalité, mais d'autre part le pied droit qui est vissé, ancré, dans la pensée scolastique idéaliste et qu'il veut justifier. Descartes, c'est le véritable dualisme, la contradiction philosophique en tant que telle qui fait que j'ai toujours quelques scrupules à le dire. Moi qui suis belge devant des Français, hein, pour qui Descartes est un de ces colosses de l'histoire universelle de la pensée, mais je suis devant un des internationalistes, hein, donc je peux aussi le dire avec un peu plus d'aisance. La pensée de Descartes, toute importante soit-elle, ne pouvait être qu'un moment dans l'histoire de la pensée philosophique. philosophique, puisqu'elle portait en elle-même sa propre contradiction, même pas conçue par Descartes, la contradiction entre la matière qui devait être nécessairement étendue et l'esprit, l'âme qui lui était réservée à Dieu, contradiction intenable, parce que dans la personne humaine composée à la fois d'un corps étendu matériel et d'une âme immatérielle non étendue spirituelle tout entière tendue vers Dieu, il y a des connexions évidentes que Descartes ne pourrait pas expliquer, que le cartésianisme. Donc le cartésianisme est un grand moment de l'évolution de la pensée philosophique, mais ce n'en est qu'un moment qui n'existe comme grand moment que parce qu'il était destiné à être dépassé, et celui qui va dépasser ce moment, ça sera d'abord et avant tout ce curé des Ardennes qu'est le curé Mélier. Il part à l'assaut du cartésianisme tel qu'il est vulgarisé par les cartésiens chrétiens Malebranche et Fénelon. Je fais juste une petite parenthèse, j'ai essayé d'aller vite là-dessus, parce que quand Descartes a développé ses méditations, après son discours de la méthode, l'Église s'en est étonné, voire parfois offusqué. Il tente, Descartes, d'introduire la raison dans le discours qui est exclusivement religieux. Et ça va diviser l'Église. Il y aura les religieux, les catholiques conservateurs, qui verront en Descartes un ennemi qui n'ose se déclarer et qu'il faut combattre. Mais il y aura des cartésiens, mais il y aura des ecclésiastiques, des catholiques, qui trouveront que Descartes, c'est tout bon. Pour l'instant, on n'a que la foi, la croyance aveugle. C'est quoi la foi? Sinon, la croyance en quelque chose que l'on ne peut pas démontrer. C'est là la définition précise de la foi, la croyance en quelque chose qui est donc incroyable. Hein, on n'a que la foi pour dire qu'il faut croire en Dieu. Et voilà maintenant que Monsieur Descartes s'ébarque et nous offre la raison pour dire que Dieu existe. Et effectivement, Descartes, on a dit qu'il donnait quelquefois des concessions pour pouvoir écrire, mais bon, si on donne des concessions, il ne faut pas en rajouter trop. On ne trouve pas une seule preuve de l'existence de Dieu chez Descartes. On n'en trouve pas deux, on n'en trouve pas trois, on en trouve quatre. Il aurait pu se limiter à une seule, hein, pour prouver que Dieu existait. On voit clairement sa contradiction. Mélier va partir de Fénelon et Malebranche pour retourner contre la raison cartésienne qui vise à prouver Dieu, pour retourner contre elle-même cette pensée et arriver à débloquer ce dualisme cartésien en passant au matérialisme intégral. Alors, je ne peux pas m'apesantir, je vous conseille donc cet excellent livre dans lequel tout est expliqué, exposé avec la pensée de Mélier lui-même, parce que sinon, c'est trop long, je n'ai que quelques minutes pour pouvoir le présenter, cette pensée. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a que sa propre spéculation. Il n'a pas les outils de l'expérience. Il va raisonner sur base spéculative pour accéder au matérialisme. Il va prendre par exemple, je donne ce seul exemple, il le fait pour le temps, mais il le fait pour le monde. Lui-même, je vais prendre le monde. Les chrétiens disent que le monde a été créé par quelque chose qu'ils assimilent à Dieu et qui n'est pas de la matière. Quelque chose qui n'est pas matière et qui a créé la matière. Alors, de deux choses l'une, dit Mélier, spéculativement et logiquement, si rien de matière a créé de la matière, à partir de quoi l'a-t-il créé? Il fallait de la matière préexistante. Et si la matière préexistait, mais c'est que la matière existait avant celui qui a voulu la créer, qui d'une certaine manière n'a fait que de l'esbrouf, n'a fait que se mettre en valeur en disant avoir créé la matière là où il aurait utilisé cette matière déjà préexistante. Je vais passer aussi sur sa démolition en règle de tous les grands principes cartésiens, puisque je tiens le point de vue que Mélier est qu'on représente la rupture avec la pensée cartésienne en France, et la première étape de cette rupture, plus radicale encore que celle des Lumières. Je vais passer là-dessus. Je retiens seulement ces éléments, je vais vous les dire rapidement, pour Descartes, pour ceux qui connaissent un peu. Pour Descartes, la matière est par définition étendue. La matière, c'est du dur. Donc on a ici de la matière. C'est une bouteille d'eau étendue, voilà de la matière. Elle a comme particularité, comme essence d'être étendu. L'étendue, c'est la matière. La matière, c'est l'étendue. Pour Méliès, il peut y avoir de la matière qui n'est pas détendue. Et la pensée, les sensations, les sentiments, etc. sont cette matière non étendue, ces modifications de la matière. Premier élément. Deuxième élément chez Descartes, les idées innées. Ça se trouve, et ça se trouve un peu brutalement, dans son discours de la méthode. Après la première idée, géniale, je fais table rase de tout. Et hein, je me demande, est-ce que le monde existe, et je ne sais pas débrouiller cela, mais, hein, doutant de cela, je me dis, mais si je doute, on connaît ça, hein, je pense, et si je pense, on connaît encore plus, je suis, donc cette idée innée que on peut avoir, que l'on existe. Quand il affirmait ça, il n'est encore que une chose, comme on dit en philosophie, hein, des termes simples quelquefois pour ce domaine compliqué qu'est celui de la philosophie, il n'y a encore qu'une chose pensante. Et la deuxième idée, et là on voit tout de suite l'arnaque, le subterfuge qui se glisse dans la pensée de Descartes, je me dis que je suis un individu, donc je suis une chose pensante, mais finie, limitée. Et si je me dis que je suis limité, mais pourquoi je dirais qu'il est limité, hein? On peut se le demander. Si je me le dis, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose qui est illimité, à partir duquel, par comparaison, je me décris comme limité. Donc Dieu existe, c'est cet être illimité. Voilà déjà la première preuve de l'existence de Dieu que l'on découvre chez Descartes. Hein, Méliès part en guerre contre cette idée qu'il faudrait d'abord concevoir l'infini divin pour pouvoir en faire découler les choses finies, les choses limitées. Et l'idée que l'infini n'est pas une idée première, mais une idée seconde sur l'idée du fini. Il renverse véritablement la conception cartésienne. Il dit très simplement, et il parle pour ses paysans là quand il démonte Descartes, il dit très simplement, mais j'ai l'idée d'une lieu, de mille lieues, d'un million de lieues, d'un milliard de lieues. Hein, je peux avoir cette idée, hein, et donc je peux avoir l'idée de l'infini, parce que si j'y mets une limite, une finitude, je peux concevoir qu'il y a encore un au-delà de cette limite, donc j'ai conscience de l'infini. Renversement ontologique, épistémologique, dirait-on, de la conception cartésienne. Et la dernière, là je vais encore la représenter, c'est là où Descartes, c'est pas la page la plus glorieuse qui est écrite Descartes dans ses méditations métaphysiques, la cinquième, je pense. Descartes écrit pour consacrer à l'homme cette place privilégiée d'être le seul être au monde relié avec Dieu. Il écrit que les animaux n'ont pas d'âme, de pensée, de sensation et de parole. Méliès va leur accorder pensée, sentiment et parole. Et là, on voit que Méliès, qui a lu si peu de livres, lit dans le grand livre de la vie paysanne. Et il reprend d'ailleurs, c'est une de ses parties les plus savoureuses de ce mémoire, il reprend ses paysans à témoin pour y convoquer messieurs les cartésiens. Il leur écrit, je cite de mémoire, mais presque textuellement, messieurs les cartésiens, vous qui dites que les animaux n'ont pas d'âme, de pensée, de sentiment, de sensation, venez expliquer ça à mes paysans et vous verrez comment, leur expliquant ça, ils partiront devant vous d'un grand rire irrévérencieux. C'est là la partie la plus... Alors je termine la deuxième partie, les 10%, introduite par l'introduction, introduite par et terminée dans la conclusion, la partie sociale. Il critique le fait que la religion sert de soutien au pouvoir et que religion et pouvoir politique se soutiennent l'un l'autre. C'est ce qu'il va démontrer comme étant une erreur de la religion chrétienne. Il verra d'autres erreurs doctrinales et des savoureuses. Je dois passer malheureusement là-dessus. Par exemple, Méliès met en évidence, c'est le premier à mettre en évidence, que contrairement à ce qu'on raconte, le christianisme n'est pas un monothéisme. Le judaïsme l'est. On dit les trois grandes religions monothéistes. Hein. C'est faux. Il n'y a qu'une grande religion monothéiste. Le judaïsme est une religion monothéiste, mais ce n'est pas une grande. C'est une toute petite religion monothéiste. L'islam est une grande religion monothéiste. Mais le christianisme, mais il y a raison. Il y a combien de dieux là-dedans? Mais il y en a trois qui sont trois personnes en Dieu, qui sont également chacune d'elles un Dieu. Et donc trois n'est pas un, un n'est pas trois. Hein, voilà les éléments que Méliès va évoquer. Allez, encore une. C'est plus savoureuse aussi. Celle de l'idolâtrie. Méliès donne raison aux chrétiens de condamner les païens qui pratiquent l'idolâtrie et qui révèrent comme autant de dieux des statues en or, des statues en marbre, en pierre, voire même en bois qui pourrit. Vous avez bien raison, hein, de condamner cette pratique superstitieuse qu'est l'idolâtrie des païens. Mais vous, que faites-vous? Sinon idolâtrer, même pas des statues, ni d'or, ni même de bois qui pourrit, de faibles petites icônes de pâte et de farine qu'on cuit entre deux fers sur lesquels on prononce quatre paroles et qui sont considérées être autant de dieux. Et qu'est-ce qu'on fait en plus avec ces dieux? Qu'est-ce que vous faites? En plus, vous les mangez. Donc le christianisme est une de ces religions trithéistes, hein, mais qui est aussi déophage, hein, qui mange ses propres dieux. Hein. Voilà. Et on en retrouvera bien d'autres. Je dois passer là-dessus une autre sur la morale du christianisme, parce que ça intéresse toujours le bon peuple, hein, de savoir cela. Il était curé. Est-ce que ça lui est arrivé? Donc on s'est posé la question. On peut dire que oui. Ça lui est arrivé parce qu'il est extrêmement discret là-dessus. Mais il condamne la morale chrétienne sur la sexualité et il la condamne sur l'indissolubilité du mariage. Non pas par libertinage, il n'était pas un libertin. Et la seule chose qu'il en dit, ça je voulais vous la lire, hein, dire que ces sortes d'actions de désir, de pensée et de complaisance soient des crimes dignes de châtiment éternel et de supplice éternel, comme la religion et la morale chrétienne l'enseignent, c'est une erreur qui n'est nullement croyable. Il est indigne de penser qu'une souveraine bonté voudrait si rigoureusement punir les hommes pour de vains et de si légers sujets. Et puis il termine en disant « Sots, à mon avis, sont ceux qui, par bigoterie et par superstition, n'oseraient goûter au moins quelquefois de ce qu'il en est. » Et il y aurait là plusieurs choses encore à dire à ce sujet, mais ce que je viens d'en dire suffit pour faire manifestement voir l'erreur de la morale chrétienne à ce sujet. Donc c'est là comme une confidence pudique à laquelle Méliès convie ses lecteurs sur cette question. Il me reste à conclure, et je vais conclure encore avec Méliès, sa deuxième partie. Pourquoi a-t-il écrit toute cette somme qui démonte le christianisme et ses aberrations, ses contradictions? Pourquoi a-t-il écrit cette théorie matérialiste? On reprend ce que je disais au début. Son objectif, c'était démolir la féodalité, donc démolir l'Église, donc démolir la religion, donc démolir Dieu. Et il va montrer maintenant qu'il est un penseur qui prône la transformation de la société, et étonnamment, une transformation qui passe par l'action pratique et la mobilisation des masses paysannes asservies. C'est donc le premier et le seul penseur français au XVIIIe siècle à être un penseur révolutionnaire. Saint-Just et Robespierre ne sont révolutionnaires qu'à la faveur de la révolution qu'ils vont diriger. Marat est un révolutionnaire à la faveur de la révolution et dans les chaînes de l'esclavage 15 ans avant la Révolution française, on trouve une seule mention que les libertés publiques se conquièrent par les séditions populaires, c'est-à-dire par les révolutions populaires, mais c'est tout ce qu'on peut trouver chez Marat. Chez Méliès, on trouve une véritable pensée révolutionnaire. Alors, quel est son projet? Quel est son programme révolutionnaire? D'abord, je l'ai mis en frontispice, en couverture, en illustration de cet ouvrage. Cette pensée qui va résonner comme répercutée un siècle plus tard par une autre célèbre. Unissez-vous donc, peuple, secouez entièrement le joug de ceux qui vous oppriment. Ça se trouve chez Méliès, l'union des damnés de la terre. On retrouvera l'idée d'internationalisme chez Méliès. Il parle pour tous les peuples de la terre qui doivent s'unir alors qu'on les fait se battre l'un contre l'autre. Et on est en 1729. On retrouve une idée qui va être ressuscitée deux siècles plus tard, en pleine Première Guerre mondiale, par Lénine, celle de la transformation de la guerre des nations en guerre des classes. Ça se trouve déjà dans Méliès. Je vais essayer de la retrouver, cette idée d'internationalisme qui passe par la transformation de la guerre des nations en guerre des classes. Au lieu de vous combattre les uns contre les autres pour le choix des tyrans, vous devriez vous joindre tous ensemble pour les détruire. Voilà ce que prône Méliès. Que va-t-il prôner également? Il va prôner cette idée qui aujourd'hui, pour les communistes les plus radicaux, paraissent encore parfois tellement frémissantes. L'idée de dictature du prolétariat. Évidemment, il n'y a pas de prolétariat au temps de Méliès. Mais l'idée de dictature des opprimés sur les oppresseurs, ça se trouve écrit noir sur blanc, donc à la plume, à l'encre de la plume d'oie de Méliès sur son papier, l'idée de la dictature des opprimés sur leurs oppresseurs. J'essaye de retrouver ces mentions. Il s'agit de rendre esclaves vos tyrans même. Vous devez les excommunier entièrement de votre société. Et il dit expressément qu'il s'agit d'opprimer tous les oppresseurs. Voilà ce que l'on retrouve. Alors, son idée stratégique de la révolution, ça sera pour le prochain bouquin que je consacrerai à Méliès, mais c'est déjà dans celui-ci. Son idée, ça passe par le travail clandestin et patient d'organisation de la révolution à partir des intellectuels. Les intellectuels, ils sont tous pieds et poings liés au pouvoir, ils sont tous corrompus par le pouvoir, payés et achetés par le pouvoir. Il est cependant un groupe d'intellectuels qui est proche du peuple et qui a comme tâche de l'abrutir, ce pourquoi il est payé, et qui doit renverser son métier contre ses propres fonctions, c'est celui des curés. Il dit si vous, au curé du voisinage, si vous n'avez pas, plus que moi, le courage de vous manifester avant votre mort, écrivez ce genre de texte, organisez les paysans, évitez de les abrutir comme vous le faites à travers la pensée religieuse, et au contraire, désabrutissez-les, dans le terme de l'époque, désabusez vos propres paysans, que le Dieu auquel vous leur faites croire n'existe pas, qu'il n'y a pas d'enfer et de paradis au-delà de la vie, que l'enfer, il est celui que vous vivez sur terre et que vous avez à y gagner sur terre, ce paradis, en y détruisant l'inégalité. Voilà, je vais essayer de m'en tenir au temps qui m'est imparti. Oui, il reste quelques minutes pour le débat. Voilà, s'il y a une question, je vais vous laisser ça. Dire encore un mot pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Voilà, un ouvrage. Il apparaît comme un gros ouvrage. On n'aime pas les gros ouvrages. C'est un faux gros ouvrage. C'est un tout petit. En fait, il y a 80 pages dans lesquelles j'essaye de situer la pensée de Méliès dans l'histoire des idées. Et le reste, mais le reste, c'est 200 pages, c'est-à-dire un sixième du texte de Méliès, à qui je laisse la parole, et je ne fais que introduire ce qu'il dit, expliquer ce que j'ai laissé, parce que parfois j'ai dû laisser des choses de côté, expliquer en synthèse ce que j'ai laissé de côté, et tenter de résoudre l'une ou l'autre difficulté pour que l'on puisse lire Méliès dans le texte. Voilà, ben, on a presque terminé. S'il y a une question, donc, je vous...
bon, ben, on en prend au moins une. Je ne sais pas comment on pourra en prendre.
Oui, parce que le temps est là qui vient de... Oui. Non, question très rapide, simplement. J'avais lu ce qu'avait écrit Domanger à propos de Méliès il y a pas mal d'années. Et je m'étonnais simplement, vous avez beaucoup parlé de Descartes et ce qu'on pouvait en dire par rapport à Méliès. Vous ne citez pas Voltaire, qui est un des propagateurs censeurs de Méliès. C'est-à-dire qu'à la fois, il a fait connaître Méliès, mais qu'il en a tiré ce qui lui permettait à lui, Voltaire, de défendre ses propres idées, c'est-à-dire, on peut attaquer certains aspects de la religion, mais on n'attaque pas Dieu. Ah voilà, juste c'était...
Ouais, tout à fait, je vous l'avais dit. J'ai parlé l'avant, ben, on est réduit. Mais l'après, Méliès n'a pas été connu dans le XVIIIe siècle. Pourtant, son mémoire a circulé, il a circulé sous forme d'extrait. Il a eu la chance, ou la malchance, c'est selon, de tomber dans les mains de Voltaire, qui a voltairisé Méliès, c'est-à-dire qu'il en a retenu la seule chose qui le satisfaisait, c'était la critique de l'infâme, la critique de la religion catholique, mais il a bâclé l'ensemble de la démonstration athée, matérialiste, communiste et révolutionnaire de Méliès. Donc ce qu'on a connu dans le XVIIIe siècle de Méliès et ce qu'on connaît encore souvent aujourd'hui, je vois sur Internet, circule le testament du curé Méliès. Ce testament de 50 pages n'est pas de Méliès, c'est une contrefaçon de Voltaire qui utilise certaines phrases de Méliès, qui en rajoute d'autres et qui termine d'ailleurs ces 50 pages. Ça, c'est vraiment... un des éléments par lesquels, mais ça c'est aussi dur de le dire à des Français, hein, surtout après avoir un peu étripé Descartes, il faut étriper Voltaire, un peu faux-cul, hein, faux-cul Voltaire, qui fait dire à Méliès, dans une vingtaine de lignes de conclusion qu'il rajoute à ce testament, qu'il le fait s'adresser à Dieu pour lui demander pardon de l'avoir à ce point insulté. Hein, donc il faut vraiment vouloir pervertir Méliès. Voilà, on va aujourd'hui tenter de redécouvrir Méliès. Je remercie beaucoup Lutte Ouvrière, hein, de m'avoir invité pour pouvoir en parler et faire renaître celui qui est un précurseur, d'une certaine manière, d'Engels, de Marx, de Lénine, qui ne connaissait pas Méliès. Dernière chose, Lénine ne connaissait pas Méliès, mais des bolcheviques en exil à Paris, autour de Méliès, dans le 14e arrondissement, notamment Volgin, qui sera directeur de l'Académie des sciences, historien, jeune historien, va apprendre l'existence de Méliès. Il ramène Méliès en Russie. Le premier texte traduit en russe sera en 1924. Et jusqu'il y a 2 ans, on avait, depuis 1919, un an et demi après la Révolution, on avait depuis 1919 jusque 2013, dans le parc Alexandrevski, autour du Kremlin, on avait le seul monument au monde sur lequel le nom de Méliès était noté, à côté de 18 autres qui sont ceux des précurseurs du socialisme. Ce monument, malheureusement, n'existe plus parce que la roue de l'histoire tourne et que Poutine a voulu, hein, en 2013, pour glorifier les 400 ans du règne des Romanov, faire gratter cette stèle et réinscrire le nom des tsars. C'était d'une certaine manière, il faut le dire, de bonne guerre, parce que les bolcheviks, eux, avaient d'abord fait gratter cette stèle, élevée en 1913 pour le 316e anniversaire des Romanov, et remplacer ces noms de tsars par ces précurseurs du socialisme, dont Méliès. Il reste comme trace monumentale de Méliès, mais l'association des amis de Méliès, hein, va se battre pour lui faire élever un monument. Hein, il le mérite bien en France, où on trébuche sur les statues de l'île. Libre penseur, Méliès n'a aucun monument à son nom. Il reste une plaque sur la mairie du village d'Étrépigny, mais le maire ayant changé, la roue tourne aussi, le maire, qui n'apprécie pas beaucoup Méliès, hein, a fait ravaler la façade, il a conservé la plaque, il pourrait difficilement faire autrement, mais il a tenu à y rajouter, c'est un scandale, hein, il a tenu à y rajouter juste au-dessus et en plus grand, la plaque de l'entrepreneur de ravalement en façade qui se retrouve au-dessus de celle de Méliès. Voilà. Pour ceux qui le veulent, comme on l'a dit, on passe à côté.
Voilà, on va passer à côté. Alors, est-ce que Emmanuel Blanchard est là? Parce que Ah, d'accord. Excuse-moi, je ne te voyais pas. Du coup, je laissais filer le temps, mais...
Non. J'ai laissé les débats se poursuivre.